bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien.
Objection votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent avec Tania Rachaud. Dans ce podcast, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Cette émission est réalisée par Léo Bardot à Rome.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.
Objection Votre Europe revient avec une série spéciale Green Deal, présentée par les étudiantes et les étudiants de l'université Paris-Saclay. Le pacte vert européen, discuté au sein de l'Union européenne depuis 2019, explore de nombreux sujets liés à l'environnement, et donc on a pensé qu'il serait intéressant de décrypter ces enjeux et les objectifs du Green Deal. Dans cet épisode, les étudiantes Laurine Benae-Etota, Chloé Randria Miarinsoa, Eva Talma, Aram Tertian et Emma Tricoli vont discuter des questions de greenwashing en lien avec le Green Deal.
The European Green Deal was born out of this necessity to protect our planet. But it was also designed as an opportunity to preserve our future prosperity. Europe's industry is showing every single day that it is ready to power this transition, proving that modernization and decarbonization can go hand in hand. Take the electric vehicle sector.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans L'Empreinte Verte, votre podcast qui décrypte les pratiques marketing environnementales des entreprises et met en lumière les véritables enjeux climatiques. Aujourd'hui, nous abordons une question brûlante, le greenwashing, ou comment certaines entreprises utilisent des stratégies marketing trompeuses pour se donner une image écologique sans engagement réel. Résultat, les consommateurs sont trompés et la transition écologique est freinée, ce qui soulève de nombreuses questions sur la régulation des allégations environnementales. Mais alors, comment repérer ces pratiques trompeuses? Quelles conséquences ont-elles sur la transition écologique européenne et le Green Deal? Quelles solutions existent pour les combattre? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir quatre expertes et experts. Chloé Randria Miarinsoa, journaliste au World Herald, spécialisée en environnement. Aram Tertian, économiste et expert en politique climatique. Eva Talma, juriste spécialisée en droit de la consommation. Et Laurine Benae-Etota, activiste et membre de l'ONG Watch Green, luttant contre le greenwashing. Merci à tous d'être avec nous.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.
Chloé, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer précisément ce qu'est le greenwashing et pourquoi il est si problématique ?
Bien sûr, alors le greenwashing, c'est une technique de communication utilisée par des entreprises pour paraître écologique sans vraiment l'être. Cela peut passer par des slogans vagues comme « respectueux de l'environnement »,« neutre en carbone » ou « 100% naturel », sans preuve concrète ni explication claire sur les méthodes utilisées. On retrouve aussi des labels non certifiés, des publicités exagérées ou des promesses non tenues. Ce phénomène est problématique car il trompe les consommateurs qui pensent acheter un produit respectueux de l'environnement alors que ce n'est pas toujours le cas. Et pire encore, il ralentit la transition écologique en détournant l'attention des vraies solutions et en donnant une impression de progrès qui n'existe pas.
Aram, quelles sont les conséquences de cette pratique sur l'économie et l'environnement ?
Elles sont nombreuses. D'abord, cela affaiblit la confiance des consommateurs. Quand une marque prétend être écologique mais que ce n'est pas le cas, cela rend les consommateurs plus méfiants envers les vrais produits responsables. Ensuite, cela pose un problème économique. Le greenwashing fausse la concurrence puisque les entreprises qui investissent réellement dans des pratiques durables se trouvent désavantagées face à celles qui ne font que du marketing vert, qui est bien moins coûteux que la recherche d'innovation. Enfin, cela ralentit la transition écologique. Si tout le monde pense acheter des produits verts, mais que ceux-ci sont en réalité polluants, alors les vrais efforts pour protéger l'environnement sont invisibilisés. Une étude de la Commission européenne de 2020 a ainsi révélé que plus de 53% des allégations écologiques sur le marché étaient exagérées ou mensongères. Cela détourne l'attention des vraies innovations durables et freine les efforts pour lutter contre le changement climatique.
Eva, l'Union européenne tente de lutter contre ces dérives. Quels dispositifs ont été mis en place récemment ?
En effet, l'Union européenne a pris des mesures importantes, parmi lesquelles on peut citer la directive sur les allégations écologiques de 2023, qui impose aux entreprises de prouver scientifiquement leurs engagements environnementaux et de les justifier avec des données vérifiables. Un contrôle des labels écologiques a aussi été mis en place afin de n'autoriser que ceux qui respectent les critères européens. Ensuite, le règlement taxonomie verte est celui qui définit quelles activités économiques peuvent être qualifiées de durables pour éviter que des entreprises ne prétendent être vertes sans raison. Les investisseurs s'en trouvent alors plus éclairés, malgré quelques critiques vis-à-vis de son instabilité, due notamment à l'incorporation du nucléaire et du gaz naturel dans ses produits verts. Enfin, l'Union européenne a adopté la directive sur la protection des consommateurs contre le greenwashing. Son rôle est de sanctionner les pratiques trompeuses et empêcher l'usage de termes vagues comme « neutre en carbone », sauf bien sûr s'ils sont appuyés par des données précises. Les sanctions prises contre les entreprises qui induisent les consommateurs en erreur ont aussi été renforcées.
Laurine, vous travaillez dans une ONG qui dénonce ces pratiques. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de greenwashing ?
Évidemment, il y a plusieurs secteurs où le greenwashing est particulièrement présent. D'abord, il est présent dans le textile et la fast fashion. H&M avait lancé une collection nommée Conscious en prétendant qu'elle était plus verte que le reste de ses gammes. Certains vêtements arboraient d'ailleurs un label propre à H&M, vantant des matériaux plus durables. Or, une enquête internationale menée notamment par la fondation Changing Markets a révélé que moins de 5% des matériaux utilisés étaient réellement recyclés. En parallèle, H&M continuait à produire en masse, ce qui va à l'encontre du concept même de mode durable. Le problème, c'est que ce genre d'affichage crée une illusion. Les consommateurs achètent ces produits en pensant faire un achat responsable, alors que l'impact écologique reste énorme, surtout avec la surproduction et le gaspillage que cela engendre. Le greenwashing est également présent dans l'énergie. Total Energy communique depuis des années sur ses investissements dans les énergies renouvelables, se présentant comme un acteur majeur de la transition énergétique. On voit des campagnes publicitaires qui mettent en avant le solaire ou l'éolien, mais lorsqu'on regarde les chiffres, on se rend compte que plus de 80% de ces investissements restent dirigés vers les énergies fossiles. Des ONG comme Greenpeace ou Oxfam ont dénoncé ce fossé entre le discours et la réalité. Pour ces associations, Total Energy capitalise sur une image verte qui ne se concrétise pas vraiment dans ses décisions stratégiques et ses engagements financiers. Le greenwashing est aussi présent dans l'agroalimentaire. L'huile de palme est un ingrédient très controversé à cause de la déforestation et de la destruction de l'habitat des orang-outans, notamment en Indonésie et en Malaisie. Ferrero, le fabricant de Nutella, a longtemps affirmé qu'il utilisait de l'huile de palme durable. Cependant, plusieurs enquêtes ont démontré que la chaîne d'approvisionnement de Ferrero n'était pas complètement traçable et que les plantations responsables de déforestation alimentaient toujours la production de cette huile. Le label durable mis en avant par la marque n'était donc pas toujours vérifié par des organismes vraiment indépendants. Cela a suscité une levée de boucliers de la part des consommateurs et des ONG parce que la marque communiquait énormément sur cet aspect responsable comme un argument de vente. Enfin, ce greenwashing, il est présent dans le transport. Un des scandales les plus retentissants, c'est bien sûr le Dieselgate de Volkswagen. La marque assurait que ses véhicules diesel étaient propres, respectaient les normes, voire surpassaient les exigences en matière d'émissions polluantes. On a découvert en 2015 que les tests avaient été truqués grâce à un logiciel embarqué qui reconnaissait quand le véhicule était en phase de contrôle et réduisait artificiellement ses émissions. En conditions réelles, la pollution était bien plus élevée que ce que annonçait Volkswagen. Ce scandale a été un véritable électrochoc dans l'industrie automobile, car il a montré jusqu'où une multinationale pouvait aller pour entretenir une image verte auprès du grand public.
Ciel s'assombrir, j'ai vu le temps passer comme s'il avançait pas. Je cours, je m'en bats les couilles, si à faux départ, je suis au milieu de la scène, les bras ouverts comme Paoletta. Personne n'a jamais commandé d'Happy Meal, m'a mis aux courses, le daron en burn-out comme Avicii. J'ai 10 ans, je saute comme Alibi, les chaussures qui font aller vite. 4 ans après, je tire sur un joint, je suis défoncé comme Ali G. Je suis allé à l'usine, j'ai pas kiffé, à l'école, j'ai pas kiffé, les études, j'ai pas kiffé. Travailler pour un mec qui s'en fout de moi, j'ai pas cliqué, c'est pas hyper compliqué. La première fois sur scène, j'ai paniqué, la première fois dans un studio, j'ai paniqué. On tombe, on réessaye, la deuxième fois au studio, j'ai paniqué parce que j'ai peur de tomber. Depuis le blanco sur le Hispac et les animé, j'ai fait 5 photos et 10 concerts, je vais pas me sentir arrivé. Par contre je me sens en train de tout baiser là. Puis les peut mieux faire et les odeurs de Véléda. On tombe, on réessaye de le faire et puis on voit tout le monde lever les bras. Elles sont belles vos peintures mais je préfère raconter les tâches, raconter les cages, les cris qu'on entend à l'étage, les traits dans la marge, les loupés, les ascenseurs de bloquer, les locations de couper, sport et les eaux chaudes de couper. Dieu merci les instruits, Dieu merci les couplets. On tombe, on réessaye. 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 On tombe.
comme on rêve.
Je me réveille au champ des poubelles et des oiseaux. Des snaps de la voisine qui passe au travers de la cloison. On fait crépiter qu'on veut des caras et une Porsche. Tout ce qu'on voulait c'est une maison, un bisou. J'ai la veine sur le front, c'est la zizou. En 2006, je rappe tellement bien que c'est politique. Je rappe tellement bien que sur les dorsaux j'ai un demi-smic. Je me rends compte que c'est la ronde dès que je suis un peu lucide. Attends deux minutes, je te cause la clope éclatée dans le casque. Là le regard de Montana sur la cover ou sur le poster. Ma maman veut pas de villa à la mer, elle veut que je sois dispo à sa pose d'âge. Putain, ta souris j'ai fait pomme. Est-ce fut un temps où j'y croyais pas. Maintenant le putain de destin il mange son carré. Croit il mange sa fin, il mange son carré. Da, son de le faire, mais j'étais dans un sale état. Je rappelais les héros des posters, les rures sur le carénage, le soleil dans la poussière. Pas trop dur dans le tonneau. La peur du psychologue, le bruit du violon. Resta sanguinolent, je vois l'inter, je pilote. Attiré par le vide ou par le pylône. Papy est parti juste avant la plus grosse date de ma vie. Du coup, j'ai rien compris le jour de la plus grosse date de ma vie. Réveil strident, un café noir, je m'habille. Je fixe le miroir dans les pupilles comme si je vivais la plus grosse date de ma vie. Mamie est partie juste après, tête cassée, corps verrouillé, qui voudra plus jamais parler. Mais on tombe au reste, donc je ferme les yeux, je revis la scène comme si j'enfermais ton souvenir pour qu'il puisse jamais disparaître. Okay. On tombe au réessaye pas seul, non, on réessaye pas seulement. On réessaye jusqu'à ce que la prochaine chute fasse un bruit blanc. J'aurais rien fait sans toi, j'aurais rien fait tout ce temps. Parler ça fait du bruit et croire en soi ça fait un boucan.
Vous venez d'écouter « On tombe, on réessaye » de Ben PLG. Aram, en tant qu'économiste et expert en politique climatique, vous apportez souvent une analyse plus nuancée. Pourrait-on considérer qu'il existe une forme de greenwashing moins condamnable, voire nécessaire dans une certaine mesure ?
Bien sûr, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Le sujet est bien plus complexe que cela. D'un côté, les entreprises doivent communiquer sur leurs avancées environnementales pour attirer des capitaux et des consommateurs sensibles à ces enjeux. Cette visibilité peut encourager d'autres acteurs à suivre la même voie. D'un autre côté, toute forme de mensonge ou d'exagération nuit à la crédibilité de la transition écologique. Cela sape la confiance des consommateurs et peut ralentir le marché de l'innovation verte. On pourrait dire qu'il existe une forme de greenwashing positif lorsque, par exemple, les engagements sont vérifiables. L'entreprise publie des chiffres transparents, validés par des audits indépendants. Ou alors quand l'impact global progresse. Même si l'entreprise n'est pas encore à 100% verte, on constate une réduction tangible de ses émissions carbone, une amélioration du bilan social, etc. Enfin, cela peut aussi se produire lorsque le discours reste mesuré. Au lieu de déclarer une neutralité carbone absolue, la marque peut expliquer qu'elle est en transition, qu'elle met en place un plan d'action pluriannuel ou bien d'autres choses.
Certains diront que les pratiques de greenwashing exploitent justement cette ambiguïté, non ?
Exactement, et c'est là que réside tout le problème. On ne peut pas exiger que chaque entreprise devienne irréprochable du jour au lendemain. Mais on peut exiger de la transparence, des preuves tangibles et une réelle volonté de progrès. Lorsqu'une entreprise affiche des ambitions environnementales pour encourager la concurrence et attirer les financements, c'est plutôt positif, à condition que ces ambitions se traduisent en actes vérifiables. Le danger ? C'est de vendre du rêve, sans le moindre plan d'action concret, ou de masquer des pratiques nocives derrière quelques initiatives anecdotiques.
C'est difficile de faire la part des choses entre communication sincère et greenwashing, surtout sans audit indépendant.
Il ne faut pas oublier aussi qu'il manque souvent un cadre légal plus exigeant pour vérifier la véracité de ces communications.
Chloé, comment les consommateurs peuvent-ils se protéger de ces pratiques et éviter de tomber dans le piège du greenwashing ?
Alors, pour éviter de se faire avoir par les entreprises qui ont recours au greenwashing, je recommande quelques réflexes essentiels et faciles à adopter. D'abord, ils peuvent vérifier les étiquettes et les labels, donc privilégier les certifications officielles comme l'écolabel européen, Fairtrade, FSC ou GOTS. Ils peuvent aussi analyser les différents discours marketing, donc se méfier des mots vagues comme écologique ou neutre en carbone ou durable, s'il n'y a pas de chiffres précis et vérifiables derrière. Ils peuvent aussi effectuer des recherches sur les marques, donc regarder leurs rapports environnementaux et voir s'ils publient des données transparentes et issues d'organismes indépendants. Ils peuvent signaler les publicités trompeuses, donc il est possible de porter plainte auprès du jury de déontologie publicitaire en cas de publicité mensongère. Et puis ils peuvent aussi soutenir les ONG et les actions en justice comme Greenpeace, les Amis de la Terre et d'autres associations qui mènent des enquêtes et dénoncent ces pratiques. Et enfin, utiliser les réseaux sociaux, donc s'ils identifient une marque qui pratique le greenwashing, donc partager l'information pour sensibiliser l'entourage et les autres consommateurs.
Aram, pensez-vous que l'Union européenne parviendra à éliminer le greenwashing ?
Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais si les régulations deviennent plus strictes et les sanctions plus lourdes, alors oui, les entreprises seront obligées d'adopter des pratiques plus responsables et le greenwashing n'aura plus sa place dans l'Union.
Merci à tous et à toutes pour cette discussion passionnante. Le greenwashing est un véritable frein à la transition écologique, mais en tant que citoyens informés, nous avons le pouvoir de le combattre. Nous espérons que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre le greenwashing et comment vous en protéger. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, laissez-nous une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, restez vigilants face aux fausses promesses écologiques. À très bientôt dans l'Empreinte Verte.
Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe spéciale Green Deal par les étudiantes Laurine Benahé et Tota, Chloé Randrian-Miarin-Soa, Eva Talma, Aram Tertian et Emma Tricoli du Master Droit Européen de Paris-Saclay. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio, celui des surligneurs et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de nos actualités.